Léonide Andreïev, Le gouffre et autres récits. La mordeuse. Chapitre 1. Elle n'appartenait à personne. Elle n'avait pas de nom, et nul n'aurait pu dire où elle passait les longs hivers glacés, ni de quoi elle se nourrissait. Les chiens de garde la chassaient loin des isbas bien chauffées. Ils étaient aussi affamés qu'elle, mais forts et fiers d'appartenir à un foyer. Quand, poussée par la faim ou par un besoin de compagnie instinctif, elle se montrait dans la rue, les enfants lui jetaient des pierres et des bâtons. Les adultes poussaient des hurlements joyeux, des sifflements terribles et stridents. Éperdue de peur, courant de ci de là en se heurtant aux clôtures et aux gens, elle fonçait au bout du village et se cachait au plus profond d'un grand jardin, dans un endroit qu'elle connaissait bien. Là, elle léchait ses blessures et ses plaies, ressassant dans la solitude sa peur et sa rancune. Une seule fois, on avait eu pitié d'elle, et on l'avait caressée. C'était un poivreau qui sortait d'une taverne. Il débordait d'amour et de pitié pour le monde entier, marmonnait dans sa barbe quelque chose sur les bonnes gens et les espoirs qu'il plaçait en eux. Il avait eu pitié de cette chienne sale et laide, sur laquelle son regard égaré d'ivrogne était tombé par hasard. « Médor, hé, Médor !» avait-il dit, l'appelant par le nom que l'on donne à tous les chiens. « Viens ici, n'aie pas peur !» La chienne avait très envie d'approcher. Elle remuait la queue, mais n'arrivait pas à se décider. L'homme se donna une claque sur le genou et répéta d'un ton persuasif. « Allez, viens, idiote! Je ne te toucherai pas, c'est juré !» Mais, tandis que la chienne hésitait, remuant la queue de plus en plus vite et approchant à tout petit pas, l'humeur de l'ivrogne avait changé. Toutes les offenses que lui avaient infligées les bonnes gens lui étaient revenues en mémoire. Il avait été pris de lassitude et d'une sourde rancune, et, quand la chienne s'était couchée sur le dos devant lui, il lui avait flanqué un grand coup de botte dans les flancs. « Saleté ! Qu'est-ce qu'elle a à me coller comme ça, celle-là ? » La chienne avait poussé un gémissement, moins de douleur que de surprise et de déception. Et l'homme était rentré en titubant chez lui, où il avait battu sa femme longtemps et brutalement, déchirant le foulard tout neuf dont il lui avait fait cadeau la semaine précédente. Depuis, la chienne ne faisait plus confiance aux hommes qui voulaient la caresser, et s'enfuyait la queue basse, se jetant même parfois sur eux avec rage pour les mordre, jusqu'à ce qu'on la chasse avec des pierres et un bâton. Un hiver, elle s'installa sous la terrasse d'une villa déserte, laissée sans surveillance, et y monta bénévolement la garde. La nuit, elle sortait sur la route et aboyait à en perdre la voix. Une fois couchée, elle continuait à japper avec hargne, mais dans cette hargne perçait une certaine satisfaction, et même de la fierté. La nuit d'hiver n'en finissait pas, et les fenêtres noires de la villa déserte fixaient d'un regard sombre le jardin glacé et figé. Parfois, on croyait voir s'allumer dans les vitres une petite lueur bleuâtre. C'était une étoile filante qui s'y reflétait, ou la faucille de la lune cornue qui leur décochait un rayon timide. Chapitre 2. Le printemps arriva, et la villa silencieuse résonna de voix retentissantes, de grincements de roues et du bruit des pieds boueux d'hommes chargés de lourds paquets. Des vacanciers avaient débarqué de la ville, toute une joyeuse bande d'adultes, d'adolescents et d'enfants, ivres de grand air, de chaleur et de lumière. On entendait des cris, des chansons, des rires haut perchés de femmes. La première personne que la chienne rencontra fut une jolie fille en uniforme marron qui était sortie dans le jardin en courant. Avide, impatiente, voulant saisir et étreindre tout ce qu'elle voyait, elle contempla le ciel clair, les branches rougeâtres des cerisiers, et s'allongea vivement sur l'herbe, offrant son visage au soleil brûlant. Puis elle se releva tout aussi vivement et, serrant ses bras autour de son corps, baisant l'air printanier de ses lèvres fraîches, déclara d'un air grave et pénétré « Comme c'est chic, ici !» Et elle se mit à tournoyer sur elle-même. À ce moment-là, la chienne, qui s'était approchée sans bruit, planta rageusement ses dents dans l'ourlet de la jupe qui voltigeait, la déchira et, toujours aussi silencieusement, se réfugia parmi des buissons touffus de groseilliers et de cassis.
Aïe ! Le méchant chien !
S'écria la jeune fille en s'enfuyant, et l'on entendit encore longtemps sa voix bouleversée.
« Maman, les enfants, n'allez pas dans le jardin. Il y a un chien. Il est énorme et très méchant. »
Pendant la nuit, la chienne se faufila jusqu'à la villa endormie et se coucha sans bruit à sa place, sous la terrasse. Cela sentait l'homme, et des fenêtres ouvertes montait le bruit de respirations paisibles. Les gens dormaient. Ils étaient sans défense. Ils n'avaient plus rien d'effrayant. Et la chienne les gardait jalousement. Elle ne dormait que d'un œil. À chaque craquement, elle dressait la tête, levant les deux flammes immobiles et phosphorescentes de ses yeux brillants. Or, il y avait beaucoup de bruits inquiétants dans cette délicate nuit de printemps. Quelque chose d'invisible bruissait dans l'herbe. Quelque chose de minuscule qui s'approchait, furtivement, jusque sous la truffe luisante de la chienne. Une branche sèche, datant de l'an passé, craquait sous le poids d'un oiseau endormi, et, sur la route toute proche, une carriole passait à grand fracas. Des charrettes chargées grinçaient. Au loin, dans l'air immobile, montaient les effluves du goudron frais et odorant qui appelait vers des lointains lumineux. Les vacanciers qui venaient d'arriver étaient des gens très bons. Et le fait d'être loin de la ville, de respirer un air pur et d'être entouré de bleu, de vert et de choses inoffensives, les rendait encore meilleurs. Le soleil entrait en eux sous forme de chaleur et en ressortait sous forme de rire et de bonne disposition envers tous les êtres vivants. Ils avaient d'abord voulu chasser le chien, qui leur avait fait peur, et même lui tirer dessus avec un revolver. S'il ne partait pas. Puis il s'était habitué à l'entendre aboyer la nuit, et se disait parfois, le matin, « Mais où est donc notre mordeuse ?» Ce nouveau nom, la mordeuse, lui était resté. Pendant la journée, il leur arrivait d'apercevoir dans les buissons la tache sombre de la chienne, qui disparaissait sans laisser de traces dès qu'une main se levait pour lui lancer du pain. Comme si ce n'était pas du pain, mais une pierre. Et bientôt, tout le monde s'habitua à la mordeuse. Il disait « notre chien » et plaisantait sur sa sauvagerie et sa peur irraisonnée. Chaque jour, la mordeuse réduisait d'un pas la distance qui la séparait des hommes. Elle observait leurs visages et apprenait à connaître leurs habitudes. Une demi-heure avant le repas, elle était déjà dans les buissons, à cligner des yeux d'un air affectueux. Ce fut Liolia, la collégienne peu rancunière, qui la fit définitivement entrer dans la joyeuse bande de ses vacanciers si gais.
« Viens ici, la mordeuse, » disait-elle. « Allez, ma belle, sois gentille, viens. Tu veux un sucre? Tu veux que je t'en donne un? Allez, viens. »
Mais la mordeuse ne venait pas. Elle avait peur. Avec précaution, en se tapotant la cuisse, et en parlant avec toute la tendresse dont sont capables une jolie voix et une ravissante frimousse, Liolia s'approchait. Elle aussi, elle avait peur. Si elle la mordait. Je t'aime, mordeuse. Je t'aime beaucoup. Tu as un si joli petit museau et des yeux tellement expressifs. Tu n'as pas confiance en moi, mordeuse ?
Lyolia levait les sourcils, et elle avait elle-même un si joli museau et des yeux si expressifs que le soleil avait bien raison de couvrir son jeune visage délicieusement candide de baisers brûlants qui lui rosissaient les joues.
Pour la deuxième fois de sa vie, la mordeuse se coucha sur le dos et ferma les yeux, ne sachant pas très bien si on allait la frapper ou la caresser. Mais on la caressa. Une petite main chaude effleura timidement sa tête rugueuse, et, comme si c'était là le signe d'un pouvoir incontestable, glissa librement et hardiment sur tout son corps velu, la grattant, la caressant et la chatouillant. « Maman, les enfants, regardez, je caresse la mordeuse !» s'écria Lyolia.
Quand les enfants approchèrent à grand bruit, avec leurs voix retentissantes, vifs et lumineux comme des gouttes de mercure, la mordeuse resta figée de terreur, se livrant sans défense. Elle savait que si quelqu'un la frappait maintenant, elle n'aurait plus la force de planter ses dents pointues dans la chair de son bourreau. Elle avait perdu sa férocité implacable.
Quand tous se mirent à la caresser à qui mieux mieux, elle continua encore longtemps à frémir au contact de chaque main. Et ses caresses inhabituelles étaient aussi douloureuses que des coups.
Chapitre 3. La mordeuse s'épanouit de toute sa petite âme de chien. Elle avait un nom auquel elle accourait ventre à terre du fond du jardin verdoyant. Elle appartenait à des gens. Elle pouvait les servir. N'est-ce pas suffisant pour faire le bonheur d'un chien ? Accoutumée à une frugalité datant de ses années d'errance et de privation, elle mangeait très peu, mais ce peu l'avait transformée au point de la rendre méconnaissable. Ses longs poils, qui pendaient autrefois en touffes rousses et rêches, toujours couvertes de boue séchée sur le ventre, étaient devenus tout propres, tout noirs, et brillait à présent comme du satin. Quand, par désœuvrement, elle courait jusqu'au portail, s'arrêtait sur le seuil et examinait la rue d'un air digne, il ne venait plus à l'esprit de personne de la provoquer ou de lui lancer des pierres. Mais elle se montrait aussi fière et aussi indépendante que lorsqu'elle était seule. Sa peur ne s'était pas encore complètement évaporée au feu des caresses. Et, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un approcher, elle perdait contenance et attendait les coups. Pendant longtemps encore, chaque caresse fut pour elle une surprise, un miracle incompréhensible, auquel elle était incapable de répondre. Elle ne savait pas se faire caresser. Les autres chiens, eux, savent se mettre debout sur leurs pattes de derrière, se frotter contre les jambes et même sourire. C'est ainsi qu'ils expriment leurs sentiments. Mais elle, elle ne savait pas. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se coucher sur le dos, fermer les yeux et geindre doucement. Mais c'était bien peu. Cela ne pouvait exprimer son ravissement, sa gratitude et son affection. Aussi se mit-elle d'instinct à faire ce qu'elle avait peut-être déjà vu faire par d'autres chiens, mais qu'elle avait oublié depuis longtemps. Elle faisait des culbutes grotesques, sautillait maladroitement, tournait sur elle-même, et son corps, toujours si souple et si agile, devenait gauche, comique et pitoyable.
« Maman, les enfants, regardez, la mordeuse joue !» criait Lyolia en s'étranglant de rire. Et elle implorait « Encore, mordeuse, encore, voilà, très bien !»
Tout le monde arrivait et s'esclaffait. La mordeuse tournait sur elle-même, culbutait et tombait, et personne ne voyait l'étrange prière dans ses yeux. De même qu'autrefois, on l'insultait et on la huait pour voir sa terreur désespérée, à présent, On faisait exprès de la caresser pour susciter ses excès d'amour convulsifs, si cocasses dans ses manifestations ridiculement maladroites. Il ne se passait pas une heure sans que l'un des adolescents ou des enfants ne criât « Viens jouer, la mordeuse !»«
Allez, viens !»
Et la mordeuse tournoyait, culbutait, tombait sous des rires joyeux qui n'en finissaient pas. On en disait beaucoup de bien, devant elle ou hors de sa présence. Et l'on regrettait seulement qu'elle ne voulût pas montrer ses tours devant les visiteurs, s'enfuyant toujours dans le jardin ou se cachant sous la terrasse. Peu à peu, la mordeuse prit l'habitude de ne plus se préoccuper de sa nourriture, puisqu'à heure fixe, la cuisinière lui donnait des déchets et des os. Sûre de l'avenir, elle se couchait tranquillement à sa place, sous la terrasse, et venait quémander des caresses. Elle s'alourdit. Elle quittait rarement la villa, et quand les enfants voulaient l'emmener promener dans les bois, elle agitait la queue d'un air évasif et disparaissait discrètement. Mais la nuit, son aboiement de chien de garde était toujours aussi retentissant et aussi vigilant. Chapitre 4. L'automne se mourait dans des flamboiements jaunes. Le ciel déversait des pluies fréquentes. Les villas avaient commencé à se vider et à se taire. On aurait dit que les pluies incessantes et les vents les soufflaient l'une après l'autre, comme des bougies. « Qu'allons-nous faire de la mordeuse ?» demandait Lyolia songeuse. Elle était assise, les genoux entre ses bras, et regardait tristement par la fenêtre sur laquelle roulaient les gouttes brillantes d'une averse qui commençait.
« Qu'est-ce que c'est que cette position, Lyolia ?»
dit sa mère.
« En voilà une façon de s'asseoir. »
Et elle ajouta,
« Il va falloir la laisser.
Elle se débrouillera bien. »«
Elle me fait de la peine, »
dit Lyolia d'une voix traînante.
« Que veux-tu y faire? Nous n'avons pas de jardin. » Et tu comprends bien qu'il est impossible de la garder en appartement.
« Elle me fait de la peine !»
répéta Lilia au bord des larmes. Ses sourcils sombres palpitaient comme des ailes d'hirondelle, et son joli petit nez se fronçait déjà, quand sa mère déclara
« Cela fait longtemps que les Dogaïev me proposent un chiot.
Ils disent qu'il est de très bonne race, et sait déjà monter la garde. Tu m'entends ?»«
Tandis que celui-là,
c'est un bâtard !» « Elle me fait de la peine !» répéta Lyolia,
mais elle ne fondit pas en larmes.
De nouveau, des inconnus arrivèrent, des carrioles grincèrent, les paquets gémirent sous les pas lourds, mais on parlait moins et on ne riait pas.
La mordeuse, effrayée par ces inconnus et pressentant vaguement un malheur, s'était réfugiée au bout du jardin et de là, entre les buissons dénudés, gardait les yeux rivés sur le coin visible de la terrasse et sur les silhouettes en chemise rouge qui allaient et venaient.
« Tu es là, ma pauvre mordeuse !» dit Lyolia en sortant,
vêtue d'une veste noire et de la robe marron dont la mordeuse avait arraché un morceau.
« Viens avec moi !»
Elles sortirent sur la route. La pluie tombait de façon intermittente. Et tout l'espace, entre la terre noircie et le ciel, était rempli par des volutes de nuages qui chassaient à toute vitesse. D'en bas, on voyait combien ils étaient lourds et impénétrables, tout gorgés d'eau et combien le soleil s'enfuyait derrière ce mur épais. À gauche de la route s'étendait un champ de chaume sombre. Seuls des arbustes et des buissons disparates se détachaient, bouquets solitaires, sur l'horizon bosselé tout proche. Non loin de là, devant eux, se dressait l'enceinte du village, avec, à côté, une taverne au toit de tôle rouge. Près de la taverne, une foule s'en prenait à Ilyusha, l'idiot du village.
« Donnez-moi un kopeck !»
geignait l'idiot, et des voix méchantes, moqueuses, lui répondaient de tous côtés.
« Tu veux fendre du bois ? Ivrogne !»
Ilyusha hurlait des jurons cyniques, ignobles, et tous riaient d'un rire sans joie. Un rayon de soleil perça, jaune et anémique, comme si le soleil était atteint d'une maladie incurable. Les lointains brumeux de l'automne parurent encore plus vastes et encore plus sinistres.
« Ce n'est pas intéressant, la mordeuse, » murmura Lyolia. Et elle rebroussa chemin sans un regard en arrière. Ce n'est qu'une fois à la gare qu'elle se souvint qu'elle n'avait pas dit au revoir à la mordeuse.
Chapitre 5. La mordeuse erra longtemps sur les traces des gens disparus. Elle courut jusqu'à la gare, puis, trempée et crottée, rentra à la villa. Là, elle fit quelque chose de nouveau, mais que personne ne vit. Pour la première fois, elle monta sur la terrasse et, se dressant sur ses pattes de derrière, regarda par la porte vitrée. Et gratta même avec ses griffes. Mais les pièces étaient restées vides, et personne ne lui répondit. Une petite pluie se mit à tomber, et de toutes parts montèrent les ténèbres d'une longue nuit d'automne. Elles envahirent rapidement la villa déserte. Sans bruit, elles sortaient des buissons et descendaient du ciel sinistre en même temps que la pluie. Sur la terrasse dont on avait enlevé l'auvent, ce qui la rendait plus spacieuse et étrangement vide. La lumière lutta encore longtemps contre l'obscurité, éclairant tristement les traces de pas boueuses, mais elle aussi finit par céder la place. Ce fut la nuit. Lorsque sa victoire fut indubitable, la chienne se mit à hurler d'une voix plaintive et puissante. Ce hurlement mêlait sa note sonore, perçante comme le désespoir, au bruissement monotone, lugubre et résigné de la pluie. Il déchirait les ténèbres qui s'en allaient mourir sur la plaine sombre et dénudée. Le chien hurlait. Un hurlement monocorde, lancinant, rempli d'un désespoir tranquille. Et ceux qui entendaient ce hurlement avaient l'impression que c'étaient les ténèbres sans fond de la nuit qui gémissaient et aspiraient à la lumière. Et l'on avait envie de se retrouver au chaud, auprès d'un feu bien clair et d'un cœur aimant de femme. Le chien hurlait.